VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par la crise migratoire. Les services de secours maritimes espagnols et marocains ont récupéré en mer 277 migrants subsahariens à bord d'embarcations de fortune dans la nuit de mardi à mercredi. C'est ce qu'annoncent aujourd'hui les sauveteurs espagnols. Côté Espagne, 220 personnes ont été secourues sur trois embarcations différentes dans la mer d'Alboran, en Méditerranée occidentale. Le premier groupe de migrants a été récupéré mardi soir vers 21h, temps universel, et les deux autres très tôt ce mercredi matin. Une femme décédée se trouvait sur l'une des embarcations et la cause de sa mort est inconnue. En parallèle, 57 personnes ont été secourues par les autorités marocaines dans la même mer d'Alboran. Au total, environ 11 000 migrants sont arrivés en Espagne par la mer depuis janvier 2019 et 203 ont perdu la vie en tentant la traversée, selon les données de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, couvrant la période allant jusqu'au 10 juillet. Le nombre des arrivées est en baisse d'environ 30% par rapport à la même période en 2018, souligne le ministère espagnol de l'Intérieur. Conflit en Libye, plusieurs pays occidentaux et arabes ont lancé un appel en faveur de l'arrêt des combats dans le pays. Et ils ont averti qu'une poursuite des violences aurait un impact sur la situation humanitaire ainsi que la crise des migrants et pourrait faire le jeu des extrémistes. Dans une déclaration commune mardi, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie, de même que l'Égypte et les Émirats arabes unis, ont également exprimé leur profonde inquiétude au sujet des violences de la région de Tripoli, la capitale. Les six pays préconisent un retour rapide au processus politique sous médiation de l'ONU. Au Soudan, les généraux qui dirigent le pays depuis la destitution de l'ex-président Omar al-Béchir en avril et les chefs du mouvement de contestation ont signé aujourd'hui un accord entérinant le partage du pouvoir pendant la période de transition. La déclaration politique a été paraffée par les deux camps après une nuit d'intenses négociations. Et des discussions doivent encore avoir lieu dans les prochains jours sur les points encore en litige. Notamment la question de l'immunité absolue réclamée par les militaires et rejetée par le mouvement de contestation. Pendant un peu plus de 3 ans, le pays doit être dirigé par un conseil souverain composé de 5 militaires et 6 civils, présidé tour à tour par un représentant militaire et civil. Les militaires assumeront la direction de cette instance pendant les premiers 21 mois de la transition et les civils prendront ensuite la relève pour les 18 mois restants. Ebola en République démocratique du Congo. Maintenant, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, va de nouveau évaluer aujourd'hui la portée internationale de l'épidémie de fièvre hémorragique en RDC, après le décès du premier cas enregistré dans une grande métropole congolaise, à savoir Goma, chef-lieu de la province du Nord, Kivu dans l'est du pays, et important carrefour commercial dans la région des Grands Lacs. Le point avec Jean-Roger Bion.
Un peu plus d'un mois après les deux premiers cas enregistrés à l'étranger en Ouganda, l'OMS va de nouveau se demander s'il faut élever cette épidémie qui a tué 1668 personnes depuis l'été dernier au rang d'urgence de santé publique de portée internationale. La situation doit être pour cela grave, soudaine, inhabituelle ou inattendue, avec des répercussions pour la santé publique au-delà des frontières nationales de l'État touché, ce qui peut exiger une action internationale immédiate selon les critères du règlement sanitaire international. La réponse avait été non le 14 juin dernier, mais ce premier cas diagnostiqué à Goma, la plus grande ville touchée avec 1 à 2 millions d'habitants, semble bousculer la routine de la riposte face à une épidémie déclarée le 1er août 2018. Conséquence, le directeur général adjoint de l'OMS, Ibrahima Sosefal, a déclaré à la presse qu'il est important d'évaluer le niveau de risque. L'évaluation de l'OMS montre que le risque est élevé pour les provinces et les pays voisins, notamment l'Ouganda et le Rwanda, a ajouté le coordinateur de l'OMS sur place, Michel Yao. Goma est si proche du Rwanda qu'a d'ailleurs déconseillé à ses ressortissants de traverser la frontière.
Au Cameroun, la défense de l'opposant Maurice Kamto, qui doit être jugé devant le tribunal militaire de Yaoundé avec une centaine de ses partisans, a annoncé mardi son intention de faire appel de cette décision. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, principal adversaire du président Paul Biya à la présidentielle d'octobre 2018, a été arrêté, en même temps qu'environ 150 autres personnes, à la suite d'une manifestation de protestation pacifique organisée dans plusieurs villes du pays le 26 janvier.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Mardi 16 juillet, les États-Unis ont ajouté deux djihadistes maliens, à savoir le commandant Ba Agmoussa et Ali Machou, à la liste spéciale des terroristes. Et ce, dans le cadre des efforts plus vastes visant à prendre pour cible le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, brosse le portrait de ces deux terroristes.
Ba Moussa Diarra, communément appelé Ba Agmoussa, a participé à la rébellion Touareg de 1990 à 1996, au terme de laquelle il a intégré les rangs de l'armée malienne. Il reçoit le grade de colonel et est désigné commandant des unités spéciales chargées de combattre l'insécurité dans la région de Kidal. En 2012, il déserte à nouveau. C'est pour rallier les MNLA, mais considéré comme proche de Iyad Agali, il rejoint rapidement le groupe djihadiste en Sardine, puis le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans en 2017. Ba Agmoussa a participé à plusieurs attaques contre l'armée malienne et les forces étrangères. Quant à Abdourahman Al-Sahi, dit Ali Manchou, il était le cadi des djihadistes pendant l'occupation à Tombouctou. Il a par suite intégré le groupe de soutien à l'islam sous le contrôle de Iyad Agali. Ba Agmoussa et Ali Machou sont les deux hommes que les États-Unis viennent d'ajouter à la liste des terroristes présumés mondiaux. Leur désignation bloque tous les avoirs de Moussa et Machou se trouvant aux États-Unis ou sous le contrôle des citoyens américains. Il n'est pas clair si l'un ou l'autre des deux hommes a des biens sous la juridiction des États-Unis. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et pour terminer, le 20 juillet 1969, les astronautes américains Neil Armstrong et Edwin Aldrin ont posé le pied sur la Lune, les premiers hommes à accomplir cet exploit. La NASA, l'agence spatiale américaine, célèbre actuellement le 50e anniversaire de cet événement historique en restaurant et en rouvrant la salle de commande qui gérait la mission historique Apollo 11. Aujourd'hui, c'est un musée, mais il a l'air bien réel comme en 1969. On écoute Azuma Compaoré.
L'aigle a atterri. Tels étaient les premiers mots que les ingénieurs dans la salle de contrôle ont entendus de la Lune alors qu'un nouveau chapitre de l'exploration spatiale s'ouvrait. Gene Kranz était le directeur de vol de la mission Apollo.
Nous venons d'atterrir sur la Lune et l'équipage a éteint le moteur. Et alors que le monde est célèbre, mon équipe doit continuer à travailler car nous devons nous assurer qu'il est prudent de rester à la surface de la Lune.
Le centre de contrôle de Houston a géré des vols spatiaux pendant deux décennies supplémentaires. En 1992, l'équipe de contrôle s'est installée dans une partie plus modernisée du centre spatial et la salle historique a été fermée.
J'ai donc nettoyé les consoles, débarrassé des bouteilles et des canettes. Il y avait parfois des objets dans les corbeilles à ordures. En gros, cet endroit n'était pas représentatif des différentes missions de contrôle historique.
En 2013, un groupe de rénovateurs a remporté le contrat de restauration pour remettre la salle de contrôle dans son état du 20 juillet 1969. Adams Grave est un des responsables à Historic Preservation.
35 entretiens avec les contrôleurs de vol. Ils se sont assis à chaque console et ont indiqué le bouton avec lequel ils interagissaient le plus et ce qu'ils faisaient sur leur console. Cela a beaucoup aidé le processus de restauration.
Les rénovateurs ont passé 5 ans à effectuer des recherches minutieuses. Le plus gros défi était celui de restaurer les consoles et de s'assurer que les grands écrans, les éléments les plus grands et les plus visibles de la salle, ont exactement le même aspect qu'il y a un demi-siècle.
Les écrans 1, 2 et 5. Pendant peut-être plus d'un an, nous n'avons pas pu trouver ce qui était supposé être affiché sur ces écrans pendant la descente et l'atterrissage. Après plusieurs recherches, nous avons trouvé la vidéo adéquate qui nous a montré un morceau de ce que nous devions faire pour le reconstruire.
Aucun détail n'était trop petit. Les rénovateurs ont trouvé du papier à lettres de la fin des années 1960, ainsi que des cendriers, des cigarettes et des canettes de soda. Le centre de contrôle de la mission restaurée est ouvert aux touristes qui peuvent le voir à travers une grande baie vitrée.
Merci à Azuma Compaoré et merci aussi à Alessia Bakalets qui a visité la salle de contrôle. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.